France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans une Russie attaquée par le I.
Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
C'est Vladimir Poutine, évidemment, qu'on entend au lendemain de l'attaque du Crocus City Hall. Tous ceux qui ont exécuté, planifié ou ordonné ce crime seront à juste titre et inévitablement punis. Peu importe qui ils sont et d'où viennent leurs ordres, dit Vladimir Poutine, qui, se dit en passant, n'a toujours pas cité le nom de l'État islamique au moment où on se parle et pour des raisons internes qu'on imagine. Bonsoir Hugo Michel.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions djihadistes et de leur mouvance. Vous êtes maître de conférence à l'École des affaires internationales de Sciences Po. Vous avez notamment écrit, c'est votre dernier ouvrage, La colère et l'oubli, en 2023, l'année dernière, chez Gallimard. Hugo Michron, quand on a appris que le I revendiquait l'attaque de Moscou, on s'est d'abord dit, mais qu'est-ce que vient faire le I à Moscou ? En réalité, vous qui travaillez sur ces questions, vous n'êtes, semble-t-il, pas étonné plus que ça, même pas étonné du tout, en fait.
Non, il y a au contraire, il y a une très grande antériorité de l'activisme djihadiste contre la Russie. On en trouve les prémices très tôt déjà. Pour ce que ça vaut, il faut rappeler que le djihadisme international a pris forme en Afghanistan suite à l'invasion soviétique. Donc, les premières graines, si vous voulez, de la mouvance djihadiste internationale se sont construites contre l'ennemi soviétique. Après, les origines de ce qu'on voit aujourd'hui prennent forme autour de la guerre de Tchétchénie, notamment qui émerge à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000. Et c'est très intéressant...
Donc la deuxième guerre de Tchétchénie, celle de Poutine,
c'est
précisément.
Celle, exactement. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant d'entendre Poutine maintenant, parce qu'en fait, il a des propos presque qu'on pourrait mettre en parallèle avec ceux qu'il avait tenus au tout début des années 2000, lorsqu'il commençait à affirmer son pouvoir sur la Russie, et qu'il avait dit, suite à l'attentat, on s'en souvient, hein, contre l'opéra de Moscou, qui avait été aussi un drame absolu, qu'il irait traquer, pardon l'expression, c'était comme ça qu'il s'exprimait
jusque
en
russe. Jusque dans les chiottes, c'était
voilà.
Ça. Ouais.
Et donc, en fait, Poutine a construit une grande partie de sa légitimité sur les 20 dernières années, autour de sa capacité à être, si vous voulez, une sorte de miroir de l'Occident, un homme fort qui réussirait à vaincre les islamistes par la manière forte. Et on voit bien que ce que révèle cet attentat, qui vient frapper la Russie dans le dos alors qu'elle est projetée sur l'Ukraine dans une guerre qu'elle a causée, alors même que les opposants à Poutine sont traqués par les services secrets, on voit bien que là, il y a une faille. Et c'est ça qui est politiquement, je pense, très très dur à gérer pour Poutine.
Alors on parle de l'EIK, donc l'EI du Khorasan, la branche, une des filiales, c'est la branche afghane, comme il y a une branche du Sahel, une branche de l'Indonésie, mais à quel moment elle est devenue la plus grosse branche de l'État islamique ? Est-ce que c'est parce que vraiment elle se renforce ou parce que les autres ont perdu du pouvoir ?
C'est les deux. Ouais. Donc en fait, on la voit émerger, cette branche, elle apparaît il y a 10 ans, quand Daesh commence à prendre du poids en Syrie, en Irak, il ouvre plein de branches, et notamment ils vont réussir à mettre le pied en Afghanistan, et ça c'était un point de crédibilité important pour les djihadistes de Daesh dans la galaxie djihadiste, parce que l'Afghanistan, c'est la terre originelle. Donc de réussir à monter une filiale au milieu des années 2010 en Afghanistan, c'était déjà fort. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'effondrement de Daesh en Syrie et en Irak, il y a beaucoup d'individus qui se sont enfuis. Et pour ça, évidemment, ils sont remontés, ils ont quitté via la Turquie, via l'Asie centrale, et ils ont terminé en Afghanistan. Et depuis le retour des talibans en 2021, en fait, Daesh en Afghanistan tond la laine sur le dos, si vous voulez, d'Al-Qaïda et des talibans, et donc ont sécurisé une partie du territoire. Ils ont commis un certain nombre d'attentats contre le Pakistan, on l'a oublié, mais il y a eu des attentats de Daesh contre le Pakistan qui ont été très violents, ce qui était très grave déjà. Ça montrait une capacité d'exporter les attentats contre l'Iran le 3 janvier dernier, contre la Turquie peu après, et désormais contre la Russie. Et ça, il faut prendre en compte également toute la déstabilisation de certaines sociétés d'Asie du centre. À ma connaissance, cette filiale de Daesh en Afghanistan, c'est la seule aujourd'hui qui est capable de véritablement projeter des attentats vers l'extérieur.
Alors, on va y revenir parce que c'est ça qui est à la fois, j'allais dire, intéressant et en tout cas inquiétant pour nous. Est-ce qu'on parle de gens qui sont partis en Syrie et qui sont revenus, ou est-ce qu'on parle de gens qui sont plutôt pour rester justement à l'intérieur de ce foyer-là. Ça sent très bien ce qu'ils allaient y faire derrière.
Alors justement, il y a les deux, et c'est là où c'est très intéressant de regarder l'origine des assaillants. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est des assaillants, mais par contre, de l'environnement tadjik et ouzbek, ouais. On sait que les assaillants sont tadjiks, en Afghanistan, c'est très intéressant, parce que les réseaux tadjiks et ouzbeks sont d'abord impliqués dans la guerre de Tchétchénie des années 2000, au début des années 2000. Et ils vont lutter contre la Russie dans ce cadre-là. Et avec la défaite des djihadistes, ils vont partir en Afghanistan. Mmh. Donc on va avoir des réseaux tadjiks et ouzbeks rejoindre en fait Al-Qaïda. Dans leur sillage, on va voir des réseaux turcs. Dans leur sillage, on va voir des réseaux turcs en Allemagne, puis des Allemands. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des filiales allemandes autonomes en Afghanistan autour de 2010-2011, qui vont progressivement basculer sous Daesh quelques années plus tard. Et donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la connexion tadjik et ouzbek au sein de Daesh en Afghanistan, je suis désolé de la complexité,
mais je vous en prie,
si vous nous suivez, c'est bon.
Soyons nuancés et complexes, ouais.
La mouvance tadjik et ouzbek fait le lien avec énormément de mouvances djihadistes, que ce soit les caucasiens, donc les ingouches, les tchétchènes, que ce soit les européens, via les Turcs, via les Allemands, et éventuellement les réseaux de Daesh qui étaient en Syrie, en Irak, et qui ont rebasculé vers l'Afghanistan.
Parce que c'est la question que j'allais vous poser, on se rend bien compte qu'ils sont capables de se projeter, effectivement, et cette attaque en est vraiment la preuve, et quand on peut se projeter, on peut évidemment se projeter bien plus loin, et y compris chez nous, et au-delà encore. Mais est-ce que, vous nous avez bien expliqué d'où venait, y compris, le ressentiment vis-à-vis de Moscou, donc est-ce qu'ils ont intérêt à aller se projeter au-delà de la Russie, au-delà de Moscou, au-delà de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est leur intérêt? Est-ce que c'est un des objectifs ou pas?
Oui, enfin, les djihadistes sont très opportunistes, ils font feu de tout bois, donc s'ils ont du personnel à disposition, les moyens, les ressources, les réseaux logistiques, ils passent à l'acte, en fait. C'est ça et c'est important là-dessus de voir quels sont les moyens dont ils disposent. En fait, il y a trois types, classiquement, d'attaques djihadistes. Il y a les attaques projetées, ça c'est ce qui vient de se passer à Moscou, ce qu'on a vu aussi en Iran au début du mois de janvier, c'est les plus durs à mettre en place pour les djihadistes. Il leur faut beaucoup d'hommes, de la logistique, de l'armement. Il faut qu'ils montent une cellule, donc qu'ils ne se fassent pas détecter, et qu'ils mettent en place un complot. Donc ça, c'est typiquement ce que mettent en place les djihadistes dans ce que j'appelle la marée haute, c'est-à-dire quand ils ont des moyens assez importants. Et on voit là que désormais, Daesh en Afghanistan dispose de ces moyens pour commencer, alors par cercle concentrique, ils ont d'abord visé l'Afghanistan, le Pakistan, désormais quelques pays d'Asie centrale, et désormais l'Iran et la Russie. Et on sait qu'il y a eu des attentats déjoués de ce même groupe, via les mêmes réseaux, c'est-à-dire des réseaux entre les Turkmènes, les Ouzbeks, les Tadjiks et peut-être aussi les Tchétchènes et les Ingouches, vers l'Allemagne et vers la France, qui ont été déjoués, donc signe que la réponse sécuritaire en Europe est bonne de ce point de vue-là. Mais par contre, c'est nouveau depuis le 2021 que des groupes djihadistes affiliés à Daesh puissent à nouveau projeter des attentats. Et donc ça montre bien que l'Afghanistan est devenu, contrairement à ce que disaient les talibans, est redevenu une place forte du terrorisme international.
Emmanuel Macron a même parlé, je crois que c'est 17, le chiffre qu'il a cité. Je ne sais pas si c'est 17 venant de cette mouvance-là, mais enfin ça dit leur force. Moi aussi j'ai lu, notamment sur Mediapart, citant des services de renseignement, l'Inde, l'Allemagne, l'Iran, l'Espagne, même les Maldives ou des attentats ont été déjoués. L'attaque, elle est très organisée, effectivement, elle est aussi très spectaculaire. Est-ce que c'est aussi un avertissement qui nous dit ça? Nous avons désormais, à nouveau, les moyens de faire des choses spectaculaires comme nous en avons déjà vu. Là, en France, pour le coup, on est très bien placé pour le savoir. Est-ce que c'est un avertissement, ça? Ou est-ce qu'on se dit qu'un truc spectaculaire à ce point-là ne peut être que unique et en tout cas espacé par beaucoup de temps?
Non, c'est vrai que ça résonne très fortement en France, pour des raisons évidentes suite au 13 novembre 2015. Et là, d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que la réaction des autorités russes ayant tardé, ils ont pu aller très loin dans l'horreur. Et donc, en fait, ça pose tout un tas de questions. Et c'est évidemment ça que Poutine essaie de dissimuler aujourd'hui en essayant de mettre tout ça sur le dos de l'Ukraine. On voit que Medvedev, les événements n'étaient pas finis, qu'il citait déjà l'Ukraine. Et ce qui est très fascinant, c'est... alors que cette horreur était en train de se dérouler, on avait déjà en ligne, sur les réseaux sociaux, de l'instrumentalisation de ce qui était en train de se passer avec des gens qui désignaient des coupables en fonction de leurs agendas politiques. Et ça, c'est peut-être une nouveauté par rapport à ce que nous, on a connu il y a 10 ans. C'est que désormais, comme on est dans une situation de guerre mondiale informationnelle, le moindre événement, et notamment les plus surprenants comme les attentats terroristes, sont instrumentalisés par diverses mouvances.
Mais est-ce que ça veut dire, Hugo Michereau, qu'en termes de retentissement, cette attaque a le même poids ou pas qu'une attaque façon Bataclan, etc.? Parce qu'on entend bien Vladimir Poutine... essayer de la mettre, non pas sous le tapis, puisqu'on a vu des images à la télé qui sont d'ailleurs assez terribles, de torture en direct, etc., mais en même temps, en niant que ça peut être l'État islamique, sans prononcer son nom. Donc en termes de retentissement pour eux, j'y mets des guillemets, est-ce que ça a le même sens que chez nous ou ailleurs ?
Oui, c'est même peut-être plus grave dans le sens où, comme c'est un régime autoritaire qui, justement, a beaucoup capitalisé sur sa capacité à éliminer cette mouvance, là, la résurgence, c'est le fait que c'est, il faut le dire, l'attentat le plus grave commis en Russie par des djihadistes, ça fragilise quand même beaucoup du narratif russe. Et souvenez-vous, il y a 10 ans, pénétrait largement les débats européens, puisqu'on avait des gens de tous bords politiques qui expliquaient que la Russie, finalement, avait sans doute trouvé une solution face à l'islamisme. Donc, c'est ça que ça vient fragiliser. Donc, bien au-delà du cas de la Russie, cet attentat est riche d'enseignements, et je pense qu'il faut pouvoir l'interpréter dans sa totalité.
L'opportunisme des terroristes, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, la Russie est tournée vers l'Ukraine, elle est tournée vers tout à fait autre chose. Je me demandais si, par extension, on sait bien qu'il n'y a pas de rapport entre le Hamas et Daesh en soi, enfin, il y a un mouvement djihadiste, un mouvement qui ne l'est pas, ils étaient même très rarement d'accord entre eux, mais est-ce que cette déstabilisation-là, et notamment déstabilisation occidentale à l'intérieur de nos sociétés, est aussi un vrai terreau aujourd'hui pour Daesh et pour les groupes comme celui-là ?
Oui, absolument, il y a deux choses qui sont très importantes de comprendre déjà, qu'on a du mal à voir. Déjà, Daesh et le Hamas, ce sont des groupes non étatiques, et on voit bien que depuis 5 ans, il y a énormément de groupes non étatiques qui ont une influence colossale sur les relations internationales, donc les djihadistes, le Hamas, Wagner, les Houthis, le Hezbollah, et c'est marrant, on a dû un mal fou à penser les relations internationales en mettant ces acteurs au cœur, alors qu'ils le sont. Le deuxième élément, vous l'avez dit, c'est que depuis le 7 octobre, il y a une guerre mondiale informationnelle qui se produit autour de Gaza et qui en fait produit un climat incitatif de passage à l'acte, et ça les djihadistes essayent de capitaliser là-dessus. Alors, ils n'ont pas forcément de quoi projeter des attentats, mais par contre, ils peuvent inspirer des attentats. Ça, c'est un autre type d'une autre catégorie d'attentats, et c'est plutôt ce que la France a subi et ce qu'on a connu en Europe ces dernières années, qui montre que même avec moins de capacité, ils peuvent essayer d'instrumentaliser des situations. Tout ça nous montre quand même que le djihadisme est un acteur géopolitique et pas simplement un groupe qui de temps en temps se réveille.
Et qu'il sait lire effectivement comment fonctionne la géopolitique et les divisions occidentales et autres. Hugo Micheron, merci beaucoup.
Merci.
Vraiment de votre passage chez nous.